Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité?
Bien une semaine de plus. Donc on est encore dans les arènes de l'écologie. Alors ce soir, pour parler de mondialisation, avec le représentant français de Max Havelaar, et puis avec Béatrice Bellini, qui est notre partenaire de la chaire d'économie positive labellisée UNESCO. Donc c'est notre grande fierté, Béatrice.
Merci.
Alors ce soir, tu nous as amené un invité de marque.
Eh bien, oui, tout à fait. Donc, en plus, Max Havelaar a son siège juste à côté de l'université. Et en fait, on est partenaire pour défendre justement les enjeux sociaux, environnementaux.
Mais tu n'as pas amené Max Havelaar par hasard, quand même?
Pas du tout. Alors, c'est vrai que j'ai demandé à Grégory de venir présenter un jeu qu'il a fait avec nos étudiants. Donc, qui s'appelle La fresque de la mondialisation et que j'ai trouvé très intéressant, notamment parce qu'il abordait les enjeux du commerce au niveau international.
Voilà. Et l'UNESCO était d'accord?
Tout à fait. La chaire était d'accord.
Alors, on va finir par présenter Grégory Loison. Donc, tu es responsable de mobilisation et engagement citoyen chez Max Havelaar, c'est bien ça?
C'est exactement ça.
Bon, voilà. Mon moteur de recherche a bien fonctionné. Alors, que t'as inspiré cette semaine?
Moi, je pense, je vais quand même vous dire franchement, parler des limites et de la mondialisation, je pense que c'est un... J'adore. J'adore comme sujet, je trouve que c'est vraiment totalement approprié. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand même, on est dans un monde qui est aujourd'hui dirigé par des gens dont la caractéristique, c'est justement le hors-limite.
Oui, alors, il y a des champions, même.
Il y a même les champions. Et alors, ces gens-là, dommage, ou hélas, ils n'ont pas lu Castoriadis, qui disait, il y a quelque temps, une civilisation qui ne sait pas s'imposer des limites est vouée à la barbarie.
Ok.
Et je me disais que ça, c'était tout à fait approprié. J'ai pas besoin de avec vous donner des sous-titres.
Avec ou sans teinture orange, quoi. On est bien d'accord.
On est bien d'accord. Oui. Non, mais c'est important. Alors, j'aurais pu vous parler de mes propres limites, mes limites psychologiques, mes limites physiques aussi, etc. Mais non, je pense que le plus intéressant, c'est aujourd'hui de voir... Justement, j'ai de l'actu quand même.
T'as bien bossé, François, alors, cette semaine.
Oui, pour une fois.
Oui.
Il faut le dire. Alors, vient de sortir un rapport très important que vous n'avez peut-être pas eu le temps de...
Parle-nous-en.
De lire. Alors, c'est le World Nuclear Industry Status Report pour 2025. C'est donc un état des lieux, de l'état du monde, en matière des réacteurs nucléaires. Je me suis farci quand même une partie de cette littérature. C'est pas vraiment de la poésie, hein, je vous préviens tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est justement en matière de limites, il y a deux événements importants. Le premier, c'est que parmi les pays qui ont complètement arrêté le nucléaire, il y en a un, c'est Taïwan. Ça, peut-être, vous...
Ils ont eu peur de se le faire piquer, quoi.
Non. Peut-être, ça c'est une interprétation. Mais alors, il y a un autre phénomène qui est tout aussi intéressant dans ce rapport, et qui est en filigrane, c'est qu'il n'y a plus de réacteurs nucléaires en gestation ou en construction entre l'Alaska et le Cap Horn. Donc toute l'Amérique...
Et sans... Alors, c'est bien ou c'est mal, ça?
Ah, ça, je suis pas là pour vous donner la moindre interprétation, mais je trouve que c'est un phénomène intéressant parce que les États-Unis, c'est en même temps, encore aujourd'hui, le pays qui a le plus de réacteurs nucléaires dans le monde.
Mais est-ce que ça marche au pétrole, les réacteurs nucléaires?
Non, pas du tout.
Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas...
Ni avec des pédales.
D'accord.
Mais il y a effectivement tout ce qu'il faut comme matière fissile. Mais tout simplement, on est dans une civilisation où on est en train aussi de voir la fin de l'énergie nucléaire. Ça va pas plaire à tout le monde. Mais enfin, ça, c'est un des événements clés dont je voulais vous parler. Et alors, il y en a un autre. C'est un rapport qui vient d'être fait par un institut très sérieux qui est la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine.
Ah.
Et il publie un rapport qui est intéressant aussi en matière de limites. Depuis l'invasion de l'Ukraine, il y a eu 115 000 civils ukrainiens qui ont été tués et 40 600 blessés.
Beaucoup
ça
moins.
Ça vous laisse quand même. Non, c'est normal.
Le ratio
entre le nombre de morts et le nombre de blessés, c'est d'habitude 1 à 3. Donc là aussi, on n'en rush pas à la règle. Et voilà les deux grands événements.
De ton actualité.
De mon actualité.
Voilà, de ton tour du monde à vélo dans Paris.
De mon regard.
Oui. Voilà. Bon, bah écoute, c'est très intéressant, effectivement, cet éclaircissement sur les limites du nucléaire. Je n'y avais pas imaginé. On parle effectivement beaucoup des limites du pétrole et des matières fossiles, mais...
Non, c'est en pleine stagnation. On n'a pas réussi à...
D'accord. Bon, eh ben écoute, on va passer la parole à Théo, qui est depuis Rouen, nous a envoyé sa chronique. Alors lui, par contre, il va nous donner des bonnes nouvelles. C'est pas comme toi.
Bonsoir tout le monde, moi c'est Théo et ma mission de ce soir ça va être de vous donner le sourire avec des bonnes nouvelles parce que dans le monde anxiogène qui est le nôtre, ça fait toujours du bien. Et ce soir on va rester en France, cette fois-ci entre deux voyages lointains parce que ça peut paraître dingue quand on regarde un peu trop les informations, mais il se passe aussi des choses positives en France. Et ce soir j'aimerais parler d'un dispositif qui s'appelle les ordonnances vertes et qui est un excellent exemple de mesures favorisant à la fois une politique sociale et des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Mais alors c'est quoi une ordonnance verte ? Et bien pour pas faire durer le suspense plus longtemps, une ordonnance verte c'est un dispositif qui permet à des femmes enceintes ou à des mères d'enfants de moins de 2 ans d'avoir gratuitement des paniers de produits bio pour une durée plus ou moins longue. Ces paniers sont souvent offerts par des collectivités porteuses de ces initiatives, que ce soit des communes, des métropoles ou autres, et il faut ajouter à ça, pour revenir sur l'aspect social, que ce sont des femmes en situation de précarité. Et en fait, ce qui est excellent avec ce dispositif, c'est qu'il répond en une seule mesure à 3 enjeux différents, mais qui sont tous liés, à savoir un enjeu environnemental, sanitaire et social. D'abord, concernant la question environnementale, ce dispositif, il permet de favoriser la filière bio, qui reste la moins polluante de toutes, puisqu'elle n'utilise aucun engrais chimique. Pour rappel, les produits chimiques utilisés dans l'agriculture conventionnelle sont une source de pollution importante pour les sols, l'eau, l'air, la biodiversité et accessoirement pour notre santé. Et petit aparté à ce sujet, l'idée en disant ça, c'est pas d'opposer encore plus l'écologie et l'agriculture, mais bien de montrer qu'une voie de réconciliation est possible et que les deux peuvent avancer dans le même sens. En tout cas, pour en revenir à cette mesure, elle favorise la filière bio, comme on l'a dit, puisqu'elle permet de créer une nouvelle source de débouchés pour cette filière, qui connaît une crise et un ralentissement fort depuis 2022. Or, ce dispositif assure l'achat de paniers bio à certains agriculteurs toutes les 2 semaines pour une valeur d'environ 15 à 20 euros. Alors, ça paraît pas grand-chose dit comme ça, mais multiplié par quelques centaines de paniers, ça peut maintenir plusieurs exploitations à flot. Ensuite, le deuxième enjeu auquel répondent ces ordonnances, c'est un enjeu sanitaire, puisque ça permet notamment de protéger l'enfant durant ses 1000 premiers jours de vie, qui sont considérés dans le domaine médical comme très importants pour sa future santé. Et ça inclut aussi l'aspect alimentaire, puisqu'on le sait, des aliments issus de l'agriculture conventionnelle peuvent souvent contenir des résidus de pesticides. L'objectif est donc de mieux favoriser la protection du bébé dans ses premières années et d'encourager un changement d'habitude alimentaire durable chez les familles concernées. Et enfin, le troisième enjeu abordé, il est social, puisque la distribution de ces paniers se fait selon le revenu des femmes afin de privilégier les plus précaires. Inclure ce volet social, c'est aussi rétablir une forme de justice alimentaire cette fois-ci, puisque c'est plus à démontrer que les populations les plus pauvres, faute de moyens, s'alimentent moins bien avec des produits moins bons pour la santé. Et puis au-delà des distributions de paniers, c'est souvent aussi un moment d'échange important avec ces femmes ou encore l'occasion d'organiser des ateliers en parallèle, par exemple des ateliers de cuisine. Cette mesure, pour l'instant, elle est encore à ses débuts, mais elle est portée dans plusieurs villes comme Strasbourg, Rennes, Angers, Le Havre ou encore Rouen. C'est un dispositif plus que complet et surtout c'est un rappel essentiel que les politiques sociales et environnementales sont indissociables. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.
Eh bien merci Théo,
tout le monde aura compris qu'on parle plutôt des ordonnances médicales que des ordonnances avec lesquelles on aurait pu faire voter un budget. Hein. C'est bien clair qu'effectivement, cette référence au terme d'ordonnance, c'est plutôt du côté des médecins qu'il faut voir que de l'Assemblée nationale ou du gouvernement, pour le coup. Alors bon, ça me fait une transition logique avec l'agenda de Madame la Ministre et quelles sont donc les nouvelles de Roquelaure. Alors Roquelaure, je le rappelle pour chacun, ce n'est pas une marque de cassoulet, c'est le nom de l'hôtel du siège du ministère de la transition écologique. Alors bon, c'est vrai que Madame Monique Barbu est réapparue la semaine dernière. Alors je suis un peu déçu sur son agenda. Je l'ai trouvé un peu chill, comme disent mes filles. Franchement.
Ça avait à voir avec la météo ou avec...
Je sais pas, mais en tout cas, c'était assez calme. Alors peut-être que c'est Ingrid qui l'a incité à rester cachée, mais bon, elle a été rencontrée, ce sont un ancien ministre de l'écologie, M. François de Rugy. Elle a discuté avec une députée du Finistère. Elle a vu quelqu'un qu'on connaît un peu, nous, mais un partenaire, semble-t-il, de notre ami... Béatrice, Philippe Bolo, un député député du MoDem qui siège à l'Assemblée nationale, un député du Maine-et-Loire, du Nord-Angers, et qui a un dada particulier, alors c'est pas dit dans l'agenda de Madame la Ministre, mais bon, qui dénonce les pollutions du plastique, et ça m'amène à vous dire que la semaine prochaine, on aura un numéro spécial, une émission spéciale sur les pollutions du plastique, avec notre ami Yves Lers qui présente son livre qui paraît incessamment sous peu aux éditions de L'Aulnay. Mais bon, on nous dit que Madame la Ministre a aussi vu ses collègues, Madame Chabot et Monsieur Lefebvre. On n'en attend pas moins, hein, mais bon, voilà. Donc,
oui, parce que c'était un peu silence radio du côté de.
Oui, mais bon, si c'est pour nous dire que Madame Barbu bosse avec ses collègues, c'est quand même pas un scoop. Alors, je vais aller regarder sur le fil d'infos qu'on peut avoir quand on est journaliste. Alors, ça, c'est la nouvelle manière de faire des relations avec les journalistes, c'est qu'il y a un WhatsApp réservé aux journalistes qui nous permet de savoir répondre à toutes les questions qui sont posées au cabinet. Et donc là, sur ce fil WhatsApp, cette semaine, il y avait deux sujets un peu brûlants et intéressants. Donc il y avait d'abord les ZFE, donc sur...
Il n'y avait rien sur Max Avelar.
Non, rien sur Max Avelar, mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas, Max Avelar est après la musique et Grégory est bien éveillé, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs. Il va pouvoir tout vous raconter sur la mondialisation et puis qui est ce personnage de Max Avelar. Mais pour en revenir quand même et pour terminer sur Café Madame la Ministre cette semaine, eh bien, il y a deux sujets donc qui ont un peu émoustillé la communauté journalistique. Cette question des ZFE, allait-elles être supprimées ou non à l'Assemblée nationale ?
Explique ce que c'est un peu.
Alors les ZFE, c'est les zones à faible émission. C'est grosso modo, c'est en centre urbain, on dit, bon, les voitures qui polluent un peu trop, bah, désolé, ça fait que 25 ans qu'on vous a prévenu, mais il va falloir arrêter de les utiliser. Alors c'est vrai que ça peut poser des problèmes sociaux, mais on en parlera peut-être la semaine du 11 février, où on recevra Jörg... Kilian Jorg, qui est un philosophe autrichien et qui a écrit un livre passionnant qu'on peut trouver dès maintenant d'ailleurs aux éditions Wild Project, qui s'appelle Autodestruction. Mais bon, je ne vais pas effleurer, tout vous raconter, tout mélanger comme d'habitude. Donc
cette histoire de
ZFE, de zone, effectivement, ça a effectivement beaucoup effrayé. Et puis
c'est un quadrillage du territoire ou quoi ?
Non, ce n'est pas un quadrillage du territoire, si ce n'est que les villes sont issues d'un quadrillage également. Mais bon, ça nous amène à la géographie spatiale. Je t'ai épargne ce truc. On verra ça plus tard, quand, à tête reposée, quand j'aurai bien révisé mes leçons. Donc effectivement, c'est plutôt mettre un petit peu la réduction... réduire les pollutions urbaines, parce que c'est un vrai enjeu. Mais bon, tout ça fait un peu pchit à l'Assemblée nationale. Ça a été retiré du débat, et donc il n'y a pas eu de vote sur le sujet. Alors, ça a eu quand même un avantage, c'est que cette question-là a fait réapparaître quelqu'un d'autre.
La ministre.
Oui, mais pas celle que tu crois. Agnès Pannier-Runacher, qui maintenant redevenue parlementaire, était vent debout au micro de je ne sais plus trop quel, bon, a priori c'était France Info, parce que je ne regarde pas non plus toutes les chaînes de télé, et donc est intervenue en disant qu'il ne fallait surtout pas de supprimer ces ZFE, parce que ce serait encore une énième reculade, et vous ne voulez pas de ça. Et on va finir par l'interviewer, hein, cette Agnès Pannier-Runacher, qui maintenant semble être un peu plus disponible que quand elle était ministre. Et puis pour terminer, alors l'autre grand sujet, c'était la traque. On va dire, mais attendez, quoi, Madame Barbu fait la chasse à cours, c'est quoi cette histoire de traque? Mais non, je vous arrête tout de suite, la traque, c'est pas du tout la chasse à cours, la traque, c'est la trajectoire de réchauffement de référence. Ça veut dire, en gros, quel est le pronostic de réchauffement qu'on admet comme à peu près probable, en France au moins, sur la base des travaux du GIEC, pour pouvoir bâtir une politique d'adaptation climatique.
Et ça s'écrit T-R-A-C ?
Non, 2-C.
2-C.
Voilà, bon, ça fait riche, mais c'est comme ça. c'est TRAC avec 2-C, et donc, je vous donne en mille, je révèle les résultats. Donc on nous promet plus de 2 degrés pour 2030. Bon, ça veut dire qu'on aura une retraite bien au chaud, Ben. Hein, alors après,
c'est du pronostic.
Voilà, ça c'est du pronostic. Alors pour 2050, on prévoit plutôt 2,7 degrés. Alors je sais pas, donc c'est quand même un peu plus.
Pas seulement dans ce studio.
Non. Non, mais tu rigoles, mais ça veut dire qu'on risque de crever lors d'un pic de canicule. Normalement, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Donc, bon, voilà. Et puis pour 2100, on tablerait sur plus 4 degrés. Donc, grosso modo, ce que je me dis, c'est même pas la peine de monter au ciel. L'enfer est déjà sur Terre, quoi. Bon.
Ça, c'est une belle chute.
Voilà,
c'est
voilà. Je l'ai travaillé, cher ami. Bon, on va respirer, on va prendre un petit peu de musique et on va passer à Max Avelar avant qu'il se sauve du studio. Allez.
Oh.
Eh bien, vous êtes toujours dans les arènes de l'écologie sur l'IRFM et Armand, tu nous as surpris là ce soir. C'est quoi ? C'est pas du rap ça ?
Non, c'est la BO de Expédition 33, un jeu vidéo français.
Ah, voilà, bah écoute, bravo. C'est génial. Bon, bah, donc on donne la parole à Loïc non, oh là, ça, il fallait bien sûr que je me trompe, à Grégory Loison, qui est donc le représentant, l'ambassadeur de Max Havelaar ce soir dans notre studio. Alors Loïc, Grégory,
appelez-moi Max.
Voilà, c'est ça, il est libre. Ouais, oui, tu sais, c'est la fatigue. Bon, Grégory, alors, sérieusement.
Eh ben merci déjà de me recevoir dans l'émission. C'est un plaisir de rentrer maintenant dans l'arène.
Voilà, dans le vif du sujet aussi.
Et tu vas nous expliquer comment tu as réussi.
Alors,
hein.
Déjà peut-être une question toute bête. Alors, Ben connaît, puisque Max Havelaar est presque
un indigène.
Qui était Max Havelaar et pourquoi ce nom pour une association qui œuvre pour le commerce équitable? Donc, je dévoile tout de suite un peu le sujet.
Il y a déjà beaucoup d'infos. Hein, une association, c'est vrai. Max Havelaar, n'essayez pas de le retrouver, c'est un personnage de roman. Hein,
de fiction, donc.
Fiction, on va dire. Hein, Max Havelaar, c'est néerlandais.
Et c'est du 19e siècle,
c'est ça. C'est ça, exactement. Hein, et c'est l'histoire, pour la faire court, parce que. Oui. On n'est pas là pour endormir non plus. Hein. Mais l'histoire d'un fonctionnaire. Hein, on est dans
l'Empire colonial.
L'Empire colonial néerlandais, un fonctionnaire qui se révolte ou s'indigne des conditions d'exploitation au sein des colonies, notamment en Indonésie. Donc ça, c'est pour l'histoire presque romanesque, mais réellement l'association, l'organisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une initiative aussi d'un néerlandais, hein, un prêtre ouvrier, hein, Per van der Hoff, et d'un économiste, hein, Nini Kuruzen, qui ont essayé de mettre en place un mécanisme pour,
Donc c'est parti de la même indignation sur les rapports très inégaux entre
les rapports inégaux. Ah bah alors la mission très claire de notre organisation aujourd'hui, c'est en passant par la juste rémunération, c'est de faire en sorte d'une justice sociale, c'est de faire en sorte que les producteurs et les productrices dans le monde vivent de leur travail en fait, ce qui peut sembler assez anodin, mais c'est le cas, c'est la base et le socle de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on va évoquer ensemble sans doute ce soir, c'est ça, c'est de...
Au niveau historique, ça s'est implanté en France il y a 30 ans à peu près ?
Ah, c'est à peu près ça, début des années 90, effectivement, on est initialement une organisation, on va dire, mondiale, puisqu'on fonctionne entre différents pays. C'est pour ça qu'on parle souvent du mouvement Fairtrade, le Fairtrade pour le commerce équitable, Fairtrade. Et Max Havelaar France, donc Fairtrade Max Havelaar France, existe depuis 92, effectivement un peu plus de 30 ans maintenant.
Fairtrade, ça veut dire commerce équitable.
Exactement, on est dans... Oui. Et puis c'est à la fois le nom Fairtrade et puis nous
l'ignorance de
on a parlé de mondialisation, on est obligé de passer par l'anglais, je pense aussi un petit peu, mais
on va éviter le néerlandais déjà.
c'est ça, même si on a un ancrage effectivement à l'origine avec les Pays-Bas, c'est vrai. Mais vous l'avez dit, hein, c'est important de le rappeler parce que souvent on nous associe au label qui fait aussi la notoriété de l'organisation, mais on est surtout et avant tout une ONG, hein. En France, on est ce qu'on appelle une association loi 1901. Et ça, il faut le rappeler. Oui.
Puis alors, bon, on peut peut-être redéfinir rapidement ce que c'est que le commerce équitable. C'est essayer de mettre en place un peu artificiellement ou volontairement des relations plus équilibrées entre des producteurs et puis des consommateurs.
Et avec des produits spécifiques, non ?
On va en parler des filières, effectivement, on parle de filières chez Max Havelaar, mais finalement, c'est des produits issus du monde agricole, hein, quand même. Peut-être parler d'un chiffre d'abord qui va peut-être donner du sens et expliquer pourquoi ce genre d'organisation et pourquoi on en vient à parler de commerce équitable dans un monde où le commerce est mondialisé tel qu'on le connaît. Le chiffre que je vais vous partager, c'est un constat et ça alimente notre mission, hein, si on prend des chiffres tels que l'ONU peut nous donner, on a presque 800 millions de personnes aujourd'hui qui souffrent de la faim dans le monde. Les trois quarts de ces personnes sont des paysans producteurs, productrices. Donc travaille la terre, comme on dit, plus simplement. Et les principales raisons, elles sont liées à leurs conditions de rémunération. C'est ce que je disais en préambule, hein, c'est des personnes qui ne vivent pas de leur travail.
Leur travail ne suffit pas à leur permettre de vivre, plutôt.
Et la rémunération de ce travail, ou en tout cas de leur production, est injuste. Elle couvre parfois même pas le coût de production. Et l'intérêt, toute la vertu de l'initiative et de ce que fait le commerce équitable et ce que fait notre organisation, c'est de remettre de l'équité dans les échanges.
De corriger les défauts du marché, quoi.
C'est ça. C'est ce qui peut sembler assez étonnant, c'est que, mais en même temps, c'est assez punk, c'est qu'on n'est pas contre la mondialisation en tant que telle, parce qu'on est sur des filières, effectivement, le café, le cacao, la banane, etc. On est sur des produits qui sont en bourse, qui fluctuent selon les tendances, les spéculations. Et nous, on fait quelque chose d'assez punk, puisque dans ce monde-là, on va instaurer un prix minimum. Quoi qu'il arrive, les paysans, les producteurs, les productrices ne seront pas rémunérés en dessous d'un certain prix, qui se définit selon les filières, selon les pays, etc. Je ne rentre pas dans ces détails-là un peu plus techniques. Mais nous,
quand vous dites « on », ça veut dire l'ONG elle-même.
C'est l'ONG et ses activités, puisqu'il ne suffit pas de dire à des producteurs « on va bien vous payer demain ». En fait, c'est la mise en place de toute une chaîne de valeurs et une chaîne d'acteurs qui s'engagent. Historiquement, c'est aussi ça, puisque effectivement, pour bien payer un producteur ou une productrice, en France comme à l'autre bout du monde, il faut s'assurer que déjà le premier acheteur, parfois un trader, parfois un fabricant directement, s'engage à payer ce prix-là. Et pour qu'ils s'engagent à se payer ce prix-là, il faut qu'ils soient assurés qu'il y aura une demande, en fait, tout simplement, de l'autre côté.
Alors, bon, donc on rappelle qu'on parle de Max Havelaar. Alors, Max Havelaar, on peut le trouver dans la plupart des rayons des grandes surfaces agroalimentaires. Donc, c'est pour ceux qui seraient un peu...
Mais ça, c'est nouveau ou pas?
Ah bah non.
Ça a pris du temps, quand même, pour être accepté, non?
Pour être accepté vis-à-vis des distributeurs, des marques,
un circuit de distribution.
Depuis quand je peux trouver du Max Havelaar chez
Leclerc,
non,
par exemple,
oui, Carrefour.
Au moins une dizaine d'années, enfin, l'ouverture vraiment à la grande distribution, ça remonte maintenant d'un certain temps, presque 15 ans. Et ça répond plus à une logique, pas d'offre dans des rayons, mais plus une problématique de vendre, en fait, la production et de garder notre engagement auprès des producteurs et des productrices qui, il ne suffit pas de dire, vos milliers de tonnes de cacao vont être achetées à un prix minimum. Il faut aussi s'assurer qu'ils soient vendus. Il ne suffit pas de fixer un prix, il faut que ça soit vendu. Donc, c'est l'offre et la demande. Et ici, il y a des revendeurs en France, en Europe ou dans d'autres pays.
Vous militez pour qu'il y ait des consommateurs, au fond.
Aussi. Aussi, puisque c'est l'autre bout, je vais parler de l'autre bout de la chaîne.
Il faut bien des acheteurs.
Il faut des acheteurs, il faut qu'il y ait une demande, il faut qu'il y ait une sensibilité, effectivement, à ce label et aux causes qui se jouent derrière, effectivement.
Mais bon, Grégory, moi quand je fais mes courses, il ne m'a pas semblé que le café ou le cacao ait baissé ces derniers temps. Les cours, donc là, le mécanisme que tu nous expliques, c'est si les cours s'écroulent, nous, on paye quand même les producteurs. Jusqu'à récemment, le cacao a plutôt pris, et le café a plutôt pris de la valeur. En tout cas, il est plus cher dans les rayons, quoi. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là? Vous devenez moins cher que les marques
Non, pour le coup, non. On ne devient pas forcément moins cher. Alors, effectivement, c'est bien de regarder quand la situation est bonne, entre guillemets, ou quand les prix sont hauts, puisqu'on n'a plus besoin de prix minimum, puisque les prix s'envolent et sous forme de spéculation, ce que vous disiez, mais... Il n'y a pas que le prix minimum qu'on garantit avec nos coopératives. Il y a aussi ce qu'on appelle une prime de développement qui vient s'ajouter à ce prix. Donc, ce n'est pas juste la rémunération et la transaction, on va dire, de la matière première avec un premier acheteur. On garantit aussi aux coopératives qu'il y ait un versement d'une prime de développement qui vient aider, soutenir en fait la coopérative dans ses projets de développement ou d'amélioration des conditions de travail. Et en fait, aujourd'hui, cette prime, on parlait du café et du cacao, c'est aussi cette prime qui fait la différence encore, même si les coûts sont... Les cours du café et du cacao sont élevés, il y a quand même un intérêt à rester sur sur l'équitable. Et puis une nouvelle fois, c'est ce qu'on essaye d'expliquer, c'est élevé aujourd'hui, mais vous savez mieux que moi que les bourses du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre. Ouais.
Tu spécules souvent, François.
Ça m'arrive de prendre deux tasses de café. Hein.
Alors, moi j'ai une question très naïve, et peut-être qu'elle est presque hors sujet. Est-ce que la coopérative en question, est-ce qu'elle risque pas un jour de devenir une multinationale ?
Aligre FM 93.1.
Est-ce qu'il y a certaines méthodes d'arbitrage qui font que ces coopératives-là sont toutes auront un bénéfice à vous solliciter ?
Alors, moi, je pense qu'on a une très grande marge avant qu'elles deviennent multinationales. Je ne pense pas qu'elles aient la volonté de devenir. Ce qui est important dans ces coopératives, c'est bon, au-delà de l'aspect regroupement des producteurs, des productrices, c'est l'aspect démocratique qui se joue à l'intérieur. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises, et notamment le respect du cahier des charges de Max Savlar, elles sont prises démocratiquement. C'est l'ensemble des producteurs, des productrices qui font cette coopérative qui décident de suivre ou non le cahier des charges et de s'engager dans cette démarche de commerce équitable et de choisir le label Max Savlar, enfin, la certification de leur niveau. Et ça reste des entités assez fragiles. Hein. Quand les coûts sont élevés, pour un producteur, il n'y a pas forcément toujours un intérêt de rester en coopérative puisque je peux vendre moi-même directement sans intermédiaire et avoir une certaine somme d'argent. Donc au-delà de l'aspect spéculatif et des coûts, etc., c'est aussi un modèle agricole basé sur les coopératives qui est mis en péril quand les cours sont très élevés.
Alors bon, pour rappeler, tu peux nous décrire un petit peu le logo pour ceux qui auraient été étourdis dans les rayons
Quand même. J'ai encore la naïveté de penser que les gens le repèrent. Le logo Max Savlar, c'est ce fameux cercle. Enfin, le logo, je vais dire le label, parce que quand c'est sur un paquet de café ou sur une banane, vous voyez surtout un label, plus que le logo de l'ONG qui ressemble beaucoup. Hein. Vous avez forcément l'image, je vais essayer de vous le décrire de façon stimulante. Ce cercle qui ressemble plus à un yin et un yang, vert, bleu et le noir au milieu. Si vous regardez sur vos tablettes préférées.
En tout cas, vous pourrez le découvrir sur le site d'Aligre FM bientôt, quand on a mis le podcast, il y aura le logo en photo.
Et le logo qui représente quelque chose. Est-ce que vous savez ce que le logo représente ? Vous n'avez pas une idée ? Qu'est-ce qu'on peut voir quand on regarde ? Ça fait un peu un test psychologique. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde cette tâche ? Dites-moi.
Moi, je vois un personnage que j'imagine est un paysan, lever la main, le poing, rappeler à sa dignité, dans sa mouvement de...
Bravo.
Il
y a du militantisme.
Voilà, il y a de la volonté, de la niaque. Quoi.
C'est ça. Mais c'est important de dire ça parce que c'est une particularité de notre ONG, c'est qu'on ne fait pas dans la charité. On n'est pas là pour être dans la charité, donner de l'argent ou apporter des moyens particuliers aux coopératives. Nous, ce qu'on promeut, c'est plutôt le faire, entre guillemets, et puis la capacité des producteurs, des productrices de vivre, en fait,
debout et digne. Quoi.
Voilà, nous, on n'est pas des intermédiaires, en tout cas, on est des facilitateurs et on permet de remettre la base, quoi, la juste rémunération.
Alors, grosso modo, vous les payez combien de plus
ça dépend. Pas une réponse type parce que c'est selon les filières, selon les pays. Alors, c'est vraiment très, très subtil et on va peut-être pas rentrer dans ce niveau de détail.
Alors, je vais poser la question autrement.
Ouais.
On m'a appris ça en journalisme.
Allez, vas-y, fonce.
Ça sent le piège, là.
Est-ce qu'à un moment donné, quelle est la valeur ajoutée pour le consommateur de base, lambda, s'approprier ou au moins
de choisir
du Max Savlar, à part l'amour du point.
Qui est pas suffisant potentiellement. C'est tout l'intérêt aussi de mon travail et puis les collaborations qu'on a pu avoir avec certains campus,
dont la chaire de Nanterre,
exactement,
de Béatrice,
exactement,
chaire de l'UNESCO, je précise.
Exactement, c'est qu'il n'est pas que juste une question, et là même je parle consommateur, consommatrice, mais aux citoyens, aux citoyennes, forcément, de plus largement, hein, c'est qu'il n'est pas qu'une question économique derrière. C'est-à-dire qu'en travaillant sur l'aspect, en tout cas en répondant aux enjeux économiques et aux déséquilibres, aux différences économiques qui se jouent dans cette mondialisation, on travaille aussi sur l'aspect plus sociétal et des droits humains. C'est-à-dire que dans nos cahiers des charges, il est interdit de faire travailler les enfants. Il faut rémunérer équitablement les ouvriers quand il y a des ouvriers sur la production, la parité et la non-discrimination. Et le troisième volet sur lequel on travaille beaucoup avec les coopératives et sur lequel les entreprises et puis les consommateurs sont sensibles, c'est l'aspect environnemental. Hein. On en a parlé depuis le début de l'émission. Mais comment voulez-vous lutter contre les impacts environnementaux, quel que soit le pays où vous êtes, si vous ne vivez même pas décemment de votre activité? Il y a une forme d'encouragement, c'est pour ça qu'on a aussi toute une incitation à faire passer les coopératives en bio, qui est un autre label, et nous on n'est pas un label de bio, hein. En tout cas on n'a pas cet outil-là chez Max Havelaar, mais on incite, parce qu'on sait que c'est la meilleure façon de limiter, voire de réduire l'impact environnemental de la production. Donc on va retrouver dans le cahier des charges la lutte contre la déforestation, la limitation des pesticides, et notamment. Donc c'est pas juste une question de en achetant ce chocolat, je suis sûr que la coopérative et les personnes qui travaillent sont bien rémunérées. C'est tout un écosystème en fait que vous soutenez, plus vertueux.
Bon, il y a tout un cahier des charges.
Exactement.
Ce qu'on n'a pas forcément chez Wattels ou chez d'autres capsules, quoi.
Donc il y a aussi probablement des produits que vous boycottez, j'imagine.
Qu'on boycotte, où il est difficile de travailler parce que notamment la traçabilité du produit est pas si simple.
Est-ce qu'il y a des crevettes Max Havelaar?
Je crois pas qu'il y ait de crevettes Max Havelaar.
Ah, donc il y aurait peut-être un truc à creuser sur les crevettes.
Après, chaque pays développe ses on va dire ses filières.
Non, moi je pensais au lait de chez Nestlé, le lait en poudre.
Le lait en poudre non plus.
Ouais.
Non, mais on travaille avec des producteurs laitiers en France. Hein, on les a pas cités, mais de plus en plus, parce que la problématique qu'on connaissait il y a 30, 40 ans sur les injustices et l'inéquité
envers le Sud.
Dans les productions du Sud. Mais en fait, la réalité de la juste rémunération d'un prix minimum garanti, elle est vraie aussi en France, enfin je veux dire en Europe, mais en France particulièrement. Et de plus en plus, on coopère avec justement des coopératives qui sont intéressées dans la démarche. C'est récent.
Le phénomène que les agriculteurs soient mal payés, ça c'est peut-être pas récent,
non,
mais le fait que Max Havelaar se sent
préoccupé. Dans le Nord, oui.
Effectivement, hein, puisqu'on a éprouvé un système depuis des dizaines d'années qui a le mérite de tenir. Enfin, il dépend d'aucune aide publique, hein, ce système. Il est basé sur le commerce, certes équitable, mais il n'y a aucune subvention derrière. Et la problématique agricole en France... mérité qu'on alors, essaye, de, qu'on lance l'expérience.
Je vais parler comme un économiste. vos parts de marché représentent combien et elles sont en progression ou en régression?
On
va prendre le café, quoi.
Ouais, j'ai plus les chiffres en tête.
On l'a collé.
Bah oui. Mais non.
Prendre un café, c'est Irène.
C'est ça. Non. Chaque année, en fait, on sort les chiffres du commerce équitable, les chiffres un peu annuels du chiffre d'affaires, de ce que représente le commerce équitable, notamment en France. Il y a une nette progression, mais la progression, ça rejoint un peu ce qu'on se disait précédemment. La nette progression, elle est aussi liée aux produits locaux, français, mais qui portent beaucoup le commerce équitable. J'aurais tendance à dire qu'on est plus sur les filières un peu classiques. On a parlé du café, le cacao ou la banane. C'est plutôt stable. Enfin, il n'y a pas non plus c'est plutôt stable.
Il n'existe pas un cyclope des matières premières du commerce équitable.
Non, je crois pas.
Ça serait peut-être intéressant à creuser, ça. Mais bon, on va peut-être nous mettre une deuxième pause musicale et puis on va aborder après la fameuse fresque de la mondialisation où Béatrice va pouvoir livrer toutes ses...
Nous éclairer.
Ces expériences, voilà.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité. Vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique.
Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges. Les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges. Les mêmes sons dans la hesse, les mêmes manges. Les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes. Les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés. Les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte. Lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé. Tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de cité qui me traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem. Vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule. Comme la Grèce ou l'Italie, vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie.
Et bien nous voilà dans les arènes de l'écologie sur Alir FM. Et donc, bah oui, Armand, là tu nous as surpris encore une fois. Hein, tu nous fais une playlist, comment dire, extrêmement diverse. Alors c'était qui ça?
C'était Kerry James.
Ah, écoute, il y a deux trois allusions qui nous ont fait plaisir. Bon, en tout cas, Ben, ça t'a bien réveillé, quoi. Et alors, t'avais
deux... Moi, je voulais savoir jusqu'à quel point il y avait des formations sur la dimension environnementale.
Non, c'est pas ça que tu m'avais dit. Tu voulais savoir ce qu'il y avait comme produit dans le rayon Max Havelaar. Donc, tu voulais connaître les filières. Mais non.
Vouloir questionner mon par rapport à moi, ma consommation. Non, pas du tout. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait comme formation d'un point de vue environnemental.
Eh ben, c'est une bonne question parce que c'est un des petits soucis qu'on a. Pourtant, vous m'avez collé. Hein. non, c'est une des problématiques qu'on a, en particulier en France, c'est que on a une perte un peu de connaissance des enjeux liés au commerce équitable, des valeurs qui circulent autour du commerce équitable. Il y a une perte de connaissance, je sais pas.
Oui, il y a une époque, on connaissait encore ce que c'était le tiers-monde, ouais. Tout ça, et c'est des notions qui s'effilochent.
Ouais, des sujets qu'on, enfin des problématiques qu'on n'a pas, même dans des pays voisins. Je pense aux pays en Allemagne, en Belgique, où le fair trade, parce qu'on va le nommer comme ça, ouais. est assez inhérent, on va dire, et assez connu. C'est pas qu'en France. Ah bon. Une perte d'information.
En anglais, parce que je pense que fair, oui. Il y a aussi la dimension juste que tu n'as pas dans équitable.
C'est vrai. Reste-t-il que, on s'est fait comme mission, comme on est une ONG et qu'on ne fait pas que de la labellisation, hein, c'est de déployer des programmes d'engagement et puis des programmes aussi, on va parler de ça, de formation, de sensibilisation. Parce que si on veut des personnes, des citoyens, des citoyennes qui s'engagent, autant faut-il qu'ils connaissent le sens de leur engagement. Pourquoi on s'engage et à quoi ça sert. Et donc, on a monté ce programme qu'on appelle le programme Fairtrade Academy, qui est un programme strictement gratuit. Et on le fait en collaboration, en partenariat avec les grandes écoles, les universités, dont celle de Nanterre, et qui repose sur différents piliers, un pilier académique, effectivement, sur lequel on va proposer notre expertise, une intervention ponctuelle ou des supports de décryptage à destination des promos, des responsables pédagogiques.
Tu as des chiffres un peu sur le nombre de formateurs ou d'académies, enfin qu'on ait.
On a lancé ce programme en septembre, officiellement en septembre 2025, et on s'attendait pas à ce qu'il y ait cet engouement, effectivement, parce qu'on a. Je crois qu'aujourd'hui, on doit avoir 8 conventions qui sont signées, puis on en a 16 autres en préparation.
Donc ça veut dire qu'il y a des grandes écoles ou des universités qui vous invitent, quoi.
Qui entendent parler du programme et qui sont intéressés, effectivement, alors peut-être par la gratuité sans doute, mais aussi par le sujet, puisque je pense aux écoles de commerce qui baignent dans un environnement de la mondialisation, mais qui sont intéressés pour avoir les clés de compréhension. Tout simplement, mais comment marche ce système d'équité, d'équitable? Et nous, on est là, on a créé ce programme justement pour apporter. Alors, je parlais du projet du volet académique. On va...
Et comment ça se passe à Nanterre, justement?
Alors, justement, à Nanterre, voilà. Alors, ça se passe déjà.
Non, à Nanterre, dans notre chère.
Du concret, là.
Ouais. La chère UNESCO de Béatrice.
Oui, donc en fait, c'est vrai que nous, on a passé une convention, justement, avec Max Havelaar.
Mais il faut parler dans le micro.
Au sujet.
Donc, sur le sujet plus spécifique, alors ça ne va pas seulement sur les aspects, parce qu'ils sont intervenus, donc ils ont fait une fresque de la mondialisation dont on parlera tout à l'heure, ça ne va pas seulement sur l'apport de connaissances via ces outils, mais aussi sur un échange de compétences et de connaissances. Donc, nous, on travaille depuis longtemps sur les piliers environnementaux. Max Avelar a intégré l'environnement, ce n'était pas prioritaire au départ. Donc, effectivement, on discute beaucoup sur, par rapport aux enjeux, à la priorisation dans les enjeux, parce qu'effectivement, quelquefois, les étudiants disent « Ah oui, Max Avelar, c'est l'environnement ». Non, Max Avelar, d'abord, c'est un salaire juste, une juste rémunération.
Mais ça veut dire qu'il y a des unités de valeur, des UV, comme on parlait à notre époque, je ne sais pas si on parle encore comme ça.
Ça n'existe plus.
Ça n'existe plus, mais bon, il y a bien un truc, on a remplacé le truc
par... Ça existe toujours.
Ah, on n'est pas tout à fait dépassé. Ah,
ben. Et en fait, non. Alors ça, c'est propre à l'Université de Nanterre, c'est-à-dire que c'est vrai que là, Max Avelar intervient dans le cadre de cours, effectivement, mais il y a pas, on ne délègue pas un cours à Max Avelar. C'est purement des interventions. Alors ça, c'est propre à l'université. Je pense que dans d'autres écoles, on a parlé tout à l'heure de la Fairtrade Academy, donc peut-être que dans d'autres écoles, effectivement, au niveau de la convention, c'est différent. Nous, on a une convention où on a plutôt cet échange de bonnes pratiques.
D'accord. Donc, ouais. Bon, on va pas réviser son Max Avelar et son commerce, son trade. Ça y est, il suffit que je... Moi, encore piégé. Bon, moi, je reste au commerce équitable. Hein. Bon, alors, on va peut-être passer, maintenant que je me suis bien couvert de honte, sur mon anglais déficient. Donc, on va peut-être passer à la fresque. Alors, c'est quoi cette fresque? Alors, maintenant, il y a des fresques sur tout. On ne sait même plus trop ce que c'est. J'ai appris que c'était dans des boîtes et pas sur un mur. Donc voilà, explique-nous Grégory.
Eh ben oui, alors les fresques, on connaît surtout la fresque du climat, hein, qui était pionnière et qui a fait un peu le
buzz,
qui a ouvert un peu l'univers de toutes les fresques. On a des centaines aujourd'hui de fresques. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de trouver un outil simple pour parler d'un sujet simple et pourtant assez compliqué à appréhender. Puisque l'objet de cette fresque, donc imaginez, on s'est pris, je pense que c'était 2 heures, 3 heures à peu près, hein, quand même. Et imaginez que vous êtes en groupe déjà, vous n'êtes pas seul, parce qu'il faut miser sur l'intelligence collective, le contradictoire et puis les regards de chacun.
Ça, c'est vrai pour toutes les fresques.
Oui, c'est vrai pour toutes les fresques. Et là, l'intérêt, c'est. Et puis, pas besoin d'être un expert. Ça, c'est important de le dire.
Alors, donc, je rappelle quand même, pour ceux qui sortiraient de leur grotte comme moi, la fresque, ce n'est pas une tapisserie de Bayeux au mur. C'est un jeu sur table, dans une boîte, et qui permet de...
C'est des cartes.
C'est un jeu de cartes qui va vous donner des mots, des définitions, des notions. Exactement. Et vous imaginez en fait un jeu qui va se travailler un peu en étoile ou en toile d'araignée, où la carte centrale, ça va être la question du commerce mondialisé. Et puis nous, surtout le groupe, va positionner d'autres cartes par lot pour en réalité créer des liens de causalité. Et réfléchir à... Alors le commerce mondialisé, c'est évidemment de la production, c'est de la consommation, c'est du coup des prix, puis c'est aussi un cadre réglementaire ou législatif. Donc ça, c'est un peu la colonne vertébrale de notre fresque. Et ensuite, les gens vont devoir se positionner. Le paradoxe du consommateur, les coûts cachés, la traçabilité, la délocalisation.
C'est un petit peu un monopoly moderne.
On ne met pas d'argent sur la table, même fictif. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on laisse parler et il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas la bonne réponse de Max Avelar ou la bonne réponse de tel théoricien.
De Grégory.
Ou la mienne ou de celle de Loïc, éventuellement, si vous
écoutez. Le fameux Loïc.
Et voilà, mais non, ce qui est intéressant, c'est la capacité qu'ont les étudiants, en l'occurrence, et les étudiantes, à positionner la carte et à se parler, à réfléchir, à être d'accord, pas d'accord, ou à se questionner sur le lien de causalité. Et ça fait naître une connaissance, en fait. C'est l'équivalent presque d'un cours, hein, finalement, même si on n'est pas dans un volet très académique.
Donc on ne peut pas gagner.
On gagne, surtout à la fin, la dernière partie de la fresque.
Souvent à la fin qu'on gagne.
Ouais, vaut mieux attendre la fin pour savoir si on a gagné d'ailleurs. Non, il n'y a pas de gagnant, heureusement, mais de toute façon, il n'y a pas de bonne réponse, donc ça serait difficile. Mais surtout, à la fin, on termine sur. On va mettre en fait des cartes sur des effets alors, plutôt négatifs de ce qu'on a mis sur notre table, sur ce maillage qui fait le commerce mondialisé. Et surtout, on ne s'arrête pas là, sinon ça serait la sinistrose totale. Et on travaille avec les étudiants à se positionner en tant qu'acteurs, citoyens, décideurs. Et essayer de trouver des solutions, soit des solutions qui existent.
Donne-nous un exemple.
Moi, ce que j'ai aimé dans la feuille de la mondialisation, c'est qu'on ne parle pas au départ, tu vois, tu arrives et tu parles juste de commerce international. Et tu ne parles pas d'environnement, ni de social, ni tout ça. C'est commerce. Bon, bah, alors le commerce, business. C'est quoi? Bon, bah, tu as des produits, tu as des gens qui achètent, tu as des élus qui veulent jouer pour l'intérêt public, adopter des stratégies, etc. Et donc,
quel genre d'acteur.
Voilà. En fait, il y a des cartes, c'est un peu guidé. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois, quand tu fais la fraise du climat, tu parles de climat, fière de biodiversité. Non, là, on parle.
De tout.
De la mondialisation, du commerce, de produits. Alors. Pour ma part, c'était des étudiants en marketing. Donc, si tu veux, ils ne sont pas très ouverts aux enjeux sociaux et environnementaux. Voilà. Et c'est vrai que ce n'est pas affiché comme ça. C'est la situation, c'est la réalité avec les acteurs. Et au fur et à mesure, on découvre des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des activités de lobbying. Voilà. Donc,
géopolitique.
Géopolitique aussi, tout à fait, puisqu'on va... On va pouvoir choisir des ressources dans des pays différents. Et j'ai trouvé ça original parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et quand on achète un produit, on achète un produit. Et l'idée, c'est de découvrir ce qu'il y a derrière le produit qu'on achète. Et au niveau, bien sûr, local, mais régional, national, international.
Et alors, comment sont comportés tes élèves? Ils étaient contents à la fin? Ils n'ont rien gagné? Alors, plus, des gens du marketing, je vais pas dire que c'est presque inné.
C'est justement ce que disait Grégory. Tu parlais de l'exemple. Pour eux, ce qui les a un peu marqués, c'est la carte des coûts cachés. Parce que jamais on parle de ces coûts cachés.
Les échafaudages...
Les coûts cachés derrière, tu as le fait de dire, on va prioriser des matières donc à un coût plus faible, donc on va faire des choix,
Le revers de la médaille, quoi.
Voilà.
Et on pourrait se la procurer où, cette fresque de la mondialisation
Elle a son site. Qui est dédié. Ouais. C'est une fresque qu'on a fait en collaboration avec plusieurs associations, puisqu'on a mis notre jus de cerveau en commun avec Artisans du Monde, notamment, enfin des acteurs qui tournent autour du commerce équitable. On ne l'a pas porté seul, on l'a vraiment créé ensemble pour se mettre d'accord sur la manière d'aborder les sujets. Ça n'a pas été simple d'essayer d'objectiver, comme on dit, ou essayer de trouver la neutralité. Donc il y a un site, vous pouvez être la fresque du commerce mondialisé, vous allez retrouver.
Alors il faut taper la fresque du commerce mondialisé.
Exactement.
Et pas la fresque de la mondialisation.
Voilà. Commerce mondialisé, oui, effectivement. Mmh. Okay. Dans son titre, c'est ça, oui.
Et alors est-ce qu'on peut poser une question très perso, Grégory? Quel a été ton input dans cette histoire? Qu'est-ce qui a fait que toi tu es. Comment tu t'es motivé pour. Ou qu'est-ce que tu as apporté de plus?
Pour faire la fresque?
Oui.
Alors, ça va sembler très bizarre et c'est un effort à faire, c'est justement de ne pas trop apporter. Il faut savoir se mettre en retrait et juste accompagner le groupe, avoir confiance dans l'outil.
Et t'as piégé.
L'outil, c'est un retour de, un retour de piège. Bon. C'est un retour de manuel. Non.
Tu viens de quel domaine? T'étais économiste, toi? T'as fait du marketing? T'étais vendeur?
Je fais des petits métiers, mais non, j'ai une formation de droit, de sciences politiques.
D'accord.
Et un itinéraire dans le milieu des ONG.
Voilà. Et donc aujourd'hui, ça peut, si on déclenche des vocations chez nous, toute la masse d'étudiants qui nous écoutent, il y a des carrières à faire dans une économie plus inclusive, puisque c'est le
mot à la mode.
Non, c'est pas le mot à la mode, c'est le titre de sa chaire. Et Béatrice.
Oui. Non. Mais ce qui est intéressant justement par la fresque du commerce mondialisé, c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut pas traiter de l'environnement et du social sans traiter de l'économie. Donc, effectivement, on vit dans un monde où la donnée économique est essentielle, la performance est mesurée.
Donc aujourd'hui,
mais elle n'est pas unique.
Mais Ben, il nous reste 2 minutes. Ouais. Donc pour si on veut faire une, comment dire, c'est une séance de fresques de mondialisation dans sa fac, on va sur le site et on trouve un moyen de vous appeler.
Oui, c'est ça. Soit on contacte directement Max Avelard ou on fait faire Trade Academy, vous allez très vite retrouver notre programme, ou soit vous allez directement sur le site dédié, vous allez voir, il y a un petit agenda disponible, un formulaire de contact si ça vous intéresse, effectivement.
Et t'as pas besoin d'aller dans une caverne.
D'accord, bah super.
Et ce qui est étonnant, c'est que quand vous êtes venu présenter cette fresque, enfin animer cette fresque, à aucun moment ils n'ont présenté Max Avelard.
Non.
Et ils avaient juste un suite. Ben Grégory et puis sa collègue. Ah, enfin, ils étaient trois.
D'accord.
Et après, bon, on travaille avec eux sur d'autres projets où ils ont pu se présenter.
Ils ne sont pas venus vendre leur cam, quoi. C'est ça que tu nous dis.
Oui,
quoi,
et c'est surtout, c'est surtout qu'effectivement, l'aspect commerce équitable apparaissait, mais avec tout le reste.
Et donc, tu es optimiste pour le développement du commerce équitable dans la connaissance des jeunes, de la fameuse génération Z dont on parle de plus en plus dans les arènes de l'écologie.
Ouais, bah, alors quand on bosse dans la mobilisation, l'engagement, vaut mieux rester optimiste quoi qu'il arrive, hein. Sinon je ne serais pas bien dans mon travail. Mais surtout, non, les réactions et les interactions qu'on a avec eux sont plutôt positives.
Désolé, mais là, on est pris par le temps, bah, comme d'habitude. Donc on remercie tout le monde et puis à la semaine prochaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.